Bienvenue pour ce temps de culte. C'est le temps de la rentrée, temps des retrouvailles. C'est le temps d'accueil des enfants de l'école biblique et des catéchumènes, de l'éveil à la foi. Le temps aussi pour louer le Seigneur. Temps de rassembler aussi les catéchètes, les familles et tous les membres de l'Église du Christ à l'oratoire du Louvre. Bienvenue aux personnes nouvelles de notre paroisse. Amis, frères et sœurs, vous les assoiffés, accourez vers l'eau. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Et pour ouvrir ce culte, je vous invite à chanter le psaume 8, la strophe 1, et je vous invite à vous lever. Dieu, cette année encore, veux-tu être mon ami? Pour cela, chaque jour, je viendrai m'asseoir près de toi dans ma chambre, ou dehors, sur le banc de l'école ou du collège, ou encore dans le métro. Tu me regarderas, je te regarderai, on ne se dira rien, car tu sais bien que moi, je ne sais pas parler, pas même à toi. Par moments, tout me semble compliqué. Cher Dieu, s'il te plaît, apprends-moi seulement à t'écouter dans le silence de mon cœur. Mon cœur a tellement besoin d'amour. S'il te plaît, cher Dieu, accroche-le bien fort au tien et avec toi, j'apprendrai à aimer les personnes qui sont autour de moi et j'apprendrai à t'aimer à travers les gens que je rencontre. Alors, cher Dieu, cette année encore, veux-tu être mon ami? Je te remercie du fond du cœur. Amen. Et je vous invite à prendre dans les recueils le psautier français, le cantique numéro 81, le psaume 81, dont nous chanterons les quatre strophes. Psaume 81. place.
Nous écoutons maintenant comment Dieu nous révèle son amour. Le Seigneur nous dit ceci. Faire ma volonté, ce n'est pas simple du tout. Puisque ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Mais une seule chose est sûre, comptez sur ma parole et ma promesse. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir rendue fertile, il en est de même pour ma parole, dit Dieu, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Nous chantons ensemble. Nous nous remettons devant Dieu et nous confessons ce qui nous sépare de lui. Seigneur, je ne sais rien du tout. Que je sois une grande personne ou un enfant, je ne connais pas vraiment toute la Bible. Je ne suis pas savante et je ne suis pas sûre de toujours croire en toi. Mais quelques personnes m'ont dit que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires avec des gens qui nous ressemblent, des frères qui ne s'entendent pas, des sœurs qui se jalousent, des adultes qui se font du mal, qui se battent et qui parfois ont du mal à se réconcilier. Il y a des gens dans la Bible, c'est ce qu'on raconte, qui t'ont désobéi, et d'autres qui t'ont écouté. Je sais aussi que Jésus, ton fils, a été aussi un enfant. Il a discuté, il a joué, il a couru, il a appris à lire, il a pleuré, il a ri, comme les enfants. Il a posé plein de questions, comme vous tous les enfants. Moi aussi, je veux apprendre comme lui à te découvrir et à t'aimer. Seigneur, tel que je suis, aide-moi à grandir avec toi, avec tous les personnages de la Bible, avec Jésus, tout au long de cette année. Amen.
Tel que je suis, sans voix, Seigneur, au poids, au dos.
Le Seigneur chemine avec nous. Pour recevoir la parole de pardon, je vous invite à vous lever et à recevoir cette grâce renouvelée sur nous. Dieu, par son Esprit, nous donne le courage d'être nous-mêmes. Il dépose en chacun et chacune de nous sa tendresse et son pardon. Il a posé une main sur nous pour nous bénir. Son autre main nous aide à nous relever et à nous soutenir. N'ayons pas peur, nous ne sommes pas seuls. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Ensemble, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, pour la femme et pour l'enfant. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour. Il rend possible toute espérance. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Nous lirons ce matin deux extraits du livre de la Genèse. Tout d'abord au chapitre 12, les versets 1 à 9, puis au chapitre 13, les versets 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham : Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abram construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abram continua par étapes en direction du Négev. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. » En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Ensemble, prions.
Dieu notre Père, nous nous réjouissons de cette nouvelle année d'éducation biblique qui commence, où nous allons apprendre à te découvrir et à te suivre.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes que tu nous confies. Que chacun, chacune se sente écouté, accompagné, respecté dans sa démarche et sa recherche. Que chacun et chacune se sente responsable de l'engagement fidèle de sa présence aux différentes rencontres. Que l'Évangile reste pour chacun, chacune, une parole que toujours l'on propose, mais que jamais l'on impose.
Dieu notre Père, toi qui nous appelles au ministère de moniteur, monitrice, catéchète, pour cette année 2019-2020, nous te remercions de nous confier la tâche d'instruire les jeunes de notre Église dans la connaissance de Jésus-Christ, et de les préparer à répondre de l'espérance qui est en lui. Nous te prions de renouveler notre fidélité à notre formation, d'élargir nos connaissances et notre enseignement, et nous te demandons de renouveler notre foi afin d'être auprès des enfants comme auprès des jeunes les témoins de l'Évangile que tu attends.
Nous te prions pour les parents, les grands-parents de tous ces enfants, afin que tu les accompagnes dans leur vie quotidienne, leurs engagements familiaux et associatifs, dans leur travail et dans leur foi. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs. que ta parole, vivifiée par ton esprit, rejoigne la leur, qu'elle parle au cœur comme à l'intelligence de celles et ceux qui leur sont confiés. Amen. Dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre le cantique numéro 392, dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous invite à vous lever. Alors prenez place et nous allons laisser les enfants de l'école biblique partir pour mieux les rejoindre tout à l'heure. Amis, frères et sœurs, aujourd'hui est donc un dimanche un peu différent des autres, puisque c'est le dimanche dit de la rentrée de l'éducation biblique. Et donc tous les jeunes de notre église, des tout-petits aux catéchumènes, font donc leur rentrée. Et cette année, le thème retenu pour toutes ces rencontres avec les enfants, c'est celui de la vocation. Nous découvrirons chaque mois dans la Bible un récit de vocation avec des personnages de référence du Premier Testament, comme Abraham, Moïse ou Noé ou encore Samuel, pour n'en citer que quelques-uns. Non seulement ces personnages sont des références bibliques, mais ils sont aussi des points de repère dans le temps. Mais surtout, ils sont des exemples de croyants. J'aurais envie de dire des croyants rassurants, parce que tous ces personnages ne sont pas parfaits, loin de là, on le découvrira petit à petit, mais ce sont des chercheurs de Dieu qui sont devenus des croyants, qui ont trouvé, entre guillemets, Dieu chacun à leur manière. Et c'est leur expérience de Dieu qui est racontée dans la Bible. Leur cheminement peut être aussi le nôtre. Chaque comportement de ces hommes et du peuple qui les accompagne de génération en génération ont quelque chose à nous dire pour notre foi aujourd'hui, qu'elle soit profonde ou vacillante, ancienne ou balbutiante. Ce qui est raconté dans les pages de la Bible, malgré le temps qui nous sépare du moment où ces récits ont été écrits, reste d'une actualité, je dirais, extraordinaire pour nous aujourd'hui. Ce sont des récits de vie et de foi qui peuvent nous rejoindre là où nous en sommes, tels que nous sommes. Nous sommes donc invités à lire le récit de la vocation d'Abraham et invités à le découvrir ou à le redécouvrir. Avec ce récit, nous nous rappelons que le peuple d'Israël, pas encore constitué comme tel, est un peuple de nomades et de marcheurs. Alors nous avons parlé de vocation et ce mot de vocation peut impressionner. En effet, chaque fois que nous entendons ce mot, on a l'impression que la religion n'est jamais très loin. Et c'est vrai, d'une certaine façon, si on s'arrête à la définition première de ce mot en tant que mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Mais il ne faut pas oublier les autres définitions de ce mot. La vocation, c'est aussi un penchant particulier pour un genre de vie, non religieuse pour autant, un penchant pour un certain type d'activité, comme avoir une vocation pour tel ou tel métier, ou avoir une vocation d'artiste. Alors, de quelle vocation s'agit-il pour Abraham ? Dieu lui dit de quitter son pays d'origine, après Ur en Chaldée qui se situe dans le pays de l'Irak d'aujourd'hui, installé à Charan avec toute sa tribu, Abraham reçoit un appel pour se rendre encore en Canaan sur une terre nouvelle, un pays inconnu. L'histoire d'Abraham est particulière. Ce personnage est présent dans la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Et pour ces trois religions monothéistes, cet homme est l'exemple même de la foi absolue en Dieu qu'il ne discute pas, qu'il ne remet pas en cause. Beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, dont on ignore qui l'a écrite, l'auteur de cette lettre a bien compris la relation qui existe entre Abraham et Dieu. Et il écrit ceci : « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. » Voilà la vocation d'Abraham. Il est appelé à la foi. C'est un récit important qui mérite notre attention parce qu'il raconte le début de l'aventure de la foi. On pourrait dire au commencement de la relation entre l'homme et Dieu, il y a la foi d'Abraham. Et nous pouvons remarquer qu'Abraham ne dit rien. Il obéit, non pas en parlant, mais en se mettant en route. Mais au fond, ce qui est un véritable exemple de foi, c'est qu'Abraham accueille le projet de Dieu dans sa vie au fur et à mesure qu'il avance. L'histoire d'Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, commence au chapitre 12 du livre de la Genèse. Mais au chapitre 11, il y a l'histoire de la tour de Babel. Cette tour que les hommes ont construite dans la folie des grandeurs pour se faire un nom. Les hommes veulent devenir les égaux de Dieu. Ils veulent s'assurer, disons, un accès au ciel, on va dire. Mais au fond, c'est une entreprise collective et totalitaire, un seul peuple, une seule langue, une seule race. Les hommes veulent tout niveler et supprimer les différences, la diversité et par voie de conséquence, la liberté des peuples. Mais ce projet ne voit pas le jour. Le texte dit que Dieu descend lui-même mettre le désordre. Il disperse les hommes sur la terre avec un handicap supplémentaire. Il les empêche aussi de se comprendre. Alors les hommes deviennent des nomades à la recherche de ce qu'ils ont perdu. Et c'est finalement à Abraham que Dieu promet un nom et une descendance. C'est peut-être d'une certaine façon une nouvelle étape de la création du monde. Après les origines de l'humanité concentrée sur 11 chapitres dans toute la Bible, c'est par un homme et sa famille que Dieu choisit de se faire connaître, de se révéler au monde. C'est là un nouveau commencement. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Dieu ne donne pas tout de suite satisfaction à Abraham, en ce sens qu'il lui fait une grande promesse qui va avoir besoin de temps pour se réaliser. Marcher vers un pays inconnu, dont on ne sait pas si c'est loin ou non. Faire d'Abraham une grande nation alors qu'il est seul à être appelé. Et le vertige d'une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre ou un peu plus loin, ou les étoiles du ciel. Tout cela va prendre du temps, beaucoup de temps, tellement de temps qu'Abraham devra attendre sa propre vieillesse et surtout la vieillesse de sa femme Sarai pour voir naître contre toute espérance l'enfant de la promesse, Isaac. Mais entre-temps, un autre enfant, Ismaël, sera né d'une autre femme, Agar. Mais les deux fils auront chacun leur mission et leur bénédiction. Lorsque nous lisons ce récit de la vocation d'Abraham, c'est de remarquer comment Dieu dit à Abraham et aussi d'observer l'attitude d'Abraham. Sur un appel très sobre de Dieu que je traduirais volontiers par l'intuition spirituelle, intérieure, intime d'Abraham, cet homme s'en va, il abandonne sa patrie mais aussi son clan, ce qui est un geste inouï. Quand on sait que l'individu à cette époque n'existe que par l'appartenance à sa communauté. Mais il ne part pas entièrement seul, puisque sa femme, son neveu et les serviteurs partent aussi avec lui. En partant, il se coupe de son passé. En quittant le territoire familial, Abraham devient solidaire de toutes les nations auxquelles il transmettra la bénédiction de Dieu que Dieu lui promet, ainsi qu'à sa descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Sa personne contient une bénédiction pour le monde entier, elle-même contenue quelques chapitres plus loin dans le nom d'Abraham, Dieu ayant changé son nom, et Abraham voulant dire père d'une multitude. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Cela fait mince comme feuille de route. Mais Abraham entre dans l'aventure de la foi, c'est-à-dire de la confiance absolue en acceptant la promesse absurde d'avoir une descendance alors qu'il est déjà âgé Le texte nous dit qu'il avait 75 ans quand il est parti. Ici, la foi, c'est un chemin qui débute par la rupture. Rupture avec ce qui est connu, avec ce qu'il sait, pour découvrir l'inconnu, la nouveauté et l'inattendu. Il découvrira tout en route. Il faut juste marcher dans la confiance chevillée au corps. En hébreu, la parole que Dieu adresse à Abraham est celle-ci. Va, lève-toi, va pour toi-même hors de ton pays. Va pour toi-même. Ou encore, va vers toi. Le départ vers une terre inconnue n'est pas que géographique. C'est aussi l'occasion d'un voyage intérieur. Va vers la terre que je te montrerai, mais va à la découverte de toi-même. Tu cherches à donner un sens à ta vie, alors c'est en marchant que tu le trouveras et que tu te trouveras toi-même. C'est en avançant que tu trouveras ta vraie personnalité, que tu découvriras qui tu es vraiment. Abraham quitte sa famille, je dirais sa mère, le lieu de sa naissance, son père, le lieu de son enfance. Au fur et à mesure qu'il avance, alors qu'il pourrait se perdre, en fait il se trouve. Et dans son voyage, il comprend que son identité ne se trouve pas derrière lui, dans sa naissance, sa nationalité ou son territoire, mais qu'elle est devant lui, un pas après l'autre, en marchant dans le désert, c'est-à-dire vers l'inconnu et en même temps l'inquiétant. Très vite, après son départ, Abraham s'arrête à Sichem. Il y trouvera la famine. Il ne peut pas s'y installer tout de suite. Il poursuit sa marche jusqu'en Égypte. Si on peut comprendre la marche d'Abraham comme une quête de soi-même, un chemin pour se découvrir, le texte biblique nous indique que le chemin sera plus long que prévu. Il devra encore attendre 25 ans pour que s'accomplisse la promesse d'une postérité. Sa patience est mise à l'épreuve. Un peuple doit naître de sa foi, mais il n'en verra pas les fruits. Et ce sont ses descendants qui finalement seront les propriétaires en droit du pays de Canaan. Si parfois notre route nous paraît longue et difficile, nous pouvons toujours nous dire qu'Abraham nous a précédés déjà sur ce chemin. Parce que c'est la route de la vie, de la liberté, de l'autonomie. Et au fond, on ne finit jamais de la parcourir. Lorsque nous lisons ce récit de cette vocation d'Abraham, on a l'impression que la réponse d'Abraham est immédiate. Il fait confiance, il part, il ne sait pas où il va, mais la confiance qu'il fait à Dieu lui permet de découvrir les signes de sa présence tout au long de la route. Et malgré sa confiance absolue, cela n'empêchera pas Abraham d'avoir ses épreuves. Alors, qu'est-ce que promet Dieu à Abraham ? Un pays alors qu'il quitte le sien ? Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable de la mer, alors que sa femme ne peut pas avoir d'enfant, et d'être une bénédiction pour tous les peuples. Comment se réalisera cette promesse ? Par la confiance et par l'alliance. De la confiance, impatiente d'abord, naîtra d'abord Ismaël, ayant pour maman Agar, puis de la confiance inlassablement réitérée, naîtra Isaac, ayant pour maman Sarah. Ismaël devient l'ancêtre des musulmans, plus tard Mahomet sera le prophète de la révélation du Coran. Isaac deviendra l'ancêtre des Juifs et encore plus tard Jésus naîtra de cette descendance. Certains le reconnaîtront comme étant le Messie ou le Christ. Et sa parole mettra en route des millions d'hommes et sera à l'origine de nombreuses vocations. C'est pourquoi Abraham sera appelé plus tard le père des croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, grâce à Abraham, nous sommes invités au dialogue interreligieux avec les juifs et les musulmans. Parce que l'humanité est diverse et plurielle et que nous sommes appelés à vivre ensemble les uns avec les autres. Mais cette promesse se réalise aussi avec un autre mot, c'est le mot « alliance ». Fondamental pour décrire la relation de Dieu avec son peuple. Et c'est peut-être en cela que cette notion de Dieu dans la Bible se différencie des autres notions de Dieu au pluriel. Le Dieu du début de la Genèse aurait pu tout diriger du ciel ou rester indifférent au sort de la terre. En devenant le Dieu d'Abraham, il choisit une autre solution, celle de l'alliance qui induit la notion de collaboration entre Dieu et l'être humain. Dans la Bible, Dieu choisit de faire de l'être humain un partenaire pour construire une histoire. Dieu sera le Dieu d'Abraham, puis d'Isaac, puis de Jacob, puis de Moïse, puis des prophètes. Chaque génération fera la découverte de Dieu, dont elle parlera avec ses mots personnels, suscités par la nouvelle relation qui s'instaure. Et plus on avancera dans le temps et dans l'histoire spirituelle des hommes, selon la Bible, plus la part de l'être humain deviendra importante. Alors, je partage avec vous une question qu'un enfant de l'école biblique m'a un jour posée. Qu'est-ce qui serait passé si Abraham n'était pas parti? Est-ce qu'il était libre? Petit silence. Si Abraham n'était pas parti, sa vie n'aurait jamais changé. Et il n'y aurait pas eu cette histoire. Et peut-être même pas l'histoire de Dieu avec les hommes. Ou alors elle se serait écrite autrement. Mais pour ma part, moi je pense qu'Abraham était libre, soit de rester, soit de partir. Mais ici, Dieu ouvre un avenir à Abraham. D'ailleurs, l'appel qu'il lui lance n'est pas accompagné de remontrances, de conditions ou de menaces. Donc Abraham fait le choix de partir librement, parce qu'il fait le choix de la confiance absolue à partir de cet avenir. Et à partir vers cet avenir, à première vue irréalisable. Et c'est cela qui en fait sa vocation. Amis, frères et sœurs, cette vocation continue aujourd'hui parce que des hommes et des femmes quittent leur sécurité, non seulement pour s'aventurer sur le chemin de la foi, mais aussi pour changer de vie. Pour partir à la découverte de leur vie à eux et à la découverte d'eux-mêmes. Ils reçoivent leur vocation qui leur est lancée par la parole d'un autre qui les rejoint là où ils en sont, tels qu'ils sont. Ils prennent un jour pour eux une parole, certes d'autrefois, mais qui n'a pas pris une ride, qui donne sens à leur vie et qui oriente leur marche. Et à travers cette parole, ils découvrent une présence qui ne les quitte plus. Cette parole est aujourd'hui à portée de chacune de nos vies. Toi aussi, quitte ton pays et va vers toi-même. Tu n'es pas seul, le Seigneur part avec toi. Alors, à nous de la saisir, cette parole, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de ce qui nous reste à vivre. Autrement dit, c'est aujourd'hui que tout commence. Alors je vous souhaite une très joyeuse rentrée à chacun et à chacune. Amen. dans le recueil Louanges et prières. Nous prendrons maintenant le cantique numéro 250. Et de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Gérard. Voici le temps des annonces. Je vais essayer, malgré la liste un peu longue de ce qui m'a été proposé, d'être assez bref. Je passerai tout à l'heure la parole à la meute qui a des annonces gourmandes à vous faire pour la fin du culte. Donc, ce jour, à l'issue du culte, vous pourrez aller à l'exposition sur Coligny, qui se trouve donc à l'extérieur. Vous ne pouvez y accéder que par le 106 rue de Rivoli, donc par la grille. Et cette exposition sera ouverte jusqu'à 17h. Si certains d'entre vous veulent participer à l'accueil des visiteurs, nous en serons très heureux. Donc demain, il y a la meute de l'oratoire, la réunion pour les parents de Louveteau à 19h dans la salle Verne. Et comme les programmes reprennent, mardi 17 septembre, il y a le partage biblique proposé par nos deux pasteurs. Cette année, après l'année dernière où nous avions les figures féminines, nous voici avec les figures masculines. Et naturellement, le premier servi est Adam. C'est ouvert à tous et de 14h30 à 16h, c'est un moment de partage. Ensuite, le mercredi 18 septembre, il y a les jeunes de l'oratoire qui se réunissent. C'est un moment là aussi important. À 20h30, c'est à partir de 19h et à 20h30, c'est un repas. Et cette année, leur thème est le thème de la puissance. de la toute-puissance, l'impuissance, la non-puissance de Dieu. Vaste programme. À nouveau, la troupe, il y a réunion des parents des éclaireurs à 19h, salle Verne, le jeudi 19 septembre, et le chœur de l'oratoire. J'ai oublié de remercier notre pasteur pour sa prédication, et effectivement, il nous faut trouver chaque jour notre appel et notre vraie vocation, et notre organiste David Cassan qui nous accompagne ce jour. Excusez-moi de ce petit oubli. Vendredi 20 septembre, nous commençons les journées du patrimoine, et sachez que le vendredi est pour les groupes scolaires et nous en accueillons un assez grand nombre ici dans l'oratoire, mais l'oratoire sera fermé. Par contre, le 21 et 22 septembre, ce sont les journées du patrimoine, le temple est ouvert. Nous avons généralement beaucoup de monde et nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à les accueillir, si ce n'est les accompagner. Donc, à l'issue du culte, Daniel Aubier et moi-même, nous serons à la librairie. Si certains veulent s'inscrire, nous pourrons leur indiquer quels sont les moments les plus stratégiques pour nos besoins. Donc, le temple sera ouvert samedi de 10h à 18h avec un concert en fin de journée. Et le dimanche, c'est à l'issue du culte, là aussi, jusqu'à 18h. Et dimanche prochain, nous aurons donc le culte présidé par Béatrice Cléromazir. Je vous demande aussi d'être attentif à ce besoin de bénévoles que nous avons pour toutes les actions. Les journées du patrimoine sont l'occasion souvent de se retrouver, de se rencontrer, mais sachez que nous avons besoin de monde, alors n'hésitez pas. De même, ceux qui viennent régulièrement au culte à la paroisse, mais qui ne sont pas inscrits comme faisant partie des paroissiens, vous avez des feuilles à votre disposition. Nous serions bien heureux de connaître toutes les personnes qui sont là pour pouvoir aussi les contacter. N'hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat pour la newsletter et de consulter le site si vous avez des doutes sur les horaires et nos activités. Avant de passer au moment de l'offrande, vous savez que nous en avons besoin pour entretenir le temple et toutes ces activités. Je vais passer la parole à la meute qui va vous dire ce qu'il prépare.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous nous présentons, nous sommes Alice et Léonore de la meute de l'Oratoire du Louvre et nous organisons aujourd'hui une sortie gâteau, une vente de gâteaux dans le but de financer une de nos sorties particulières de cette année pour les Louveteaux, qui est la sortie patinoire. Donc voilà, donc pour l'entrée, l'équipement et tout ce qui est sécurité. Donc nous vendons des gâteaux sucrés et salés, donc il y en a pour tous les goûts et voilà. Comment ? Non, non. Merci beaucoup et j'espère vous voir à la sortie.
Merci. Merci à vous et à votre engagement.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci pour ce culte de rentrée qui nous permet de nous retrouver dans la chaleur de notre amitié et de la fraternité qui nous unit, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Dans notre cœur, nous te disons simplement les prénoms de celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Et nous te rendons grâce de ce que les autres prient pour nous. Parfois, nous nous sentons portés sans forcément savoir d'où ça vient, mais nous ne sommes plus seuls. Nous te prions pour celles et ceux dont nous connaissons la souffrance de la maladie ou de l'approche de la mort. Ou de la solitude, ou du deuil. Nous te prions pour les personnes qui subissent la violence ou la guerre partout. Nous te prions pour les victimes comme pour les bourreaux. Nous te prions pour les athées et les humanistes en France ou dans le monde qui travaillent à la paix, à l'unité, à la réconciliation, mais aussi pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir ou de division. Nous te prions pour les croyants de toutes les religions en France ou dans le monde, qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et de division. Rends-nous, chacun à notre manière, attentifs à l'appel que tu nous adresses, à la vocation qui peut être la nôtre. Garde-nous dans la patience, l'espérance et la confiance de chaque jour. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Recevez encore l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune de vous. Qu'ensemble il nous garde dans son amour et qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prenons. Que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant de tes louanges. Je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les anges. Tu es venu. Je vous souhaite une très belle journée. Nous écoutons le dernier morceau d'orgue et nous nous retrouvons à la sortie.